Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je souhaitais remercier du fond du cœur l'agence de la biomédecine qui sponsorise 2 épisodes d'Histoire de Daron. Ces 2 épisodes ont pour but de vous éclairer sur la nécessité de donner vos gamètes, mais aussi et surtout, messieurs, de donner votre sperme. Vous aurez ici l'occasion d'écouter Benoît du côté receveur, ou plutôt du côté du couple receveur, et dans 15 jours, vous pourrez entendre Loïc, qui a donné son sperme, nous raconter ses motivations. Pour en savoir plus sur le don de sperme, je vous invite à aller voir sur le site www.dondespermatozoides.fr et le compte @jedonnemesspermatozoides avec un S bien sûr sur Instagram. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voix VOIES, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères? Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du 21e siècle, alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années? C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois Benoît, qui est papa de 2 enfants et dont la femme Isabelle a reçu un don de sperme pour concevoir Mao et Marceau, il y a respectivement 12 et 8 ans. Benoît nous offre une magnifique vulnérabilité dans cet épisode, de son envie d'enfant qui est arrivée dès le plus jeune âge, jusqu'à la découverte de sa stérilité un an après qu'ils aient décidé d'avoir des enfants avec Isabelle. Il raconte le choc de cette annonce, les émotions que ça a généré chez lui et dans l'entourage de leur couple, et comment il a reconstruit à travers des lectures une autre conception de la filiation qui les a amenés à opter pour le don de sperme. Il détaille aussi tout le parcours qui les a amenés vers une PMA, la découverte de sa fille et quelques années plus tard l'envie d'avoir un deuxième enfant et un parcours un peu différent. Sans oublier la grande question, est-ce que ses enfants sont au courant de la façon dont ils ont été conçus? Benoît fait preuve d'une grande transparence et je crois que son témoignage est très précieux. Vraiment un très très grand merci à Benoît pour son accueil, je mesure la chance que j'ai de pouvoir vivre de mes podcasts et d'avoir la possibilité dans le même temps de rencontrer un mec comme Benoît qui est venu me chercher à l'aéroport, qui m'a préparé à manger après l'interview, vraiment une super rencontre et j'espère que vous apprécierez notre discussion. Donc on est avec Benoît, salut Benoît.
Salut.
Merci beaucoup d'être là avec moi.
Merci à toi de m'avoir invité.
Bah, c'est toi qui m'invites chez toi. Je suis venu jusqu'à Toulouse. Tu t'es venu me chercher à l'aéroport. Mais quelle joie. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Benoît, on a été mis en relation ensemble par l'agence de biomédecine avec qui, et si j'ai bien compris, c'est pas la première fois que tu te prêtes à cet exercice, c'est ça?
Alors effectivement, nous on a déjà, quand je dis là, c'est la première fois où je suis tout seul en fait, okay. Parce que généralement c'était plutôt en compagnie de ma femme, voire de mes enfants, hein. Donc on a fait plusieurs interventions sur des émissions comme Les Maternelles, aussi sur France 3, sur radio, sur des radios aussi, France Bleu, enfin voilà, on a fait plusieurs interventions, mais qui étaient, si tu veux, alors qui étaient très bien, c'était généralement dans le cadre de la sensibilisation aux dons. Parce qu'effectivement, en France, bon, bah, c'est pas la panacée, hein. On manque de donneurs, clairement, de donneurs de sperme et de donneurs d'ovocytes, même si là, en l'espèce, c'était plus, le sujet, c'était plus le donneur de sperme. Et donc, voilà, on a fait quelques émissions, mais c'était toujours assez, si tu veux, assez frustrant. Et c'est pour ça que je te remercie encore de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. C'est que finalement, on avait des choses à dire. Alors, qui a notre enfin qui nous semble intéressante, après c'est, chacun jugera, chacun jugera, mais c'est vrai que on était très frustrés parce que le rendu finalement était assez décevant, voire très médiocre. Mais alors c'était pas du fait des gens qui étaient là, parce que toujours hyper bienveillants, tu veux, des gens qui avaient un peu bossé le truc quand même, mais pas énormément, parce que bah, chaque jour ils ont des sujets différents, donc je vais pas leur demander d'être des as de la PMA comme ça en deux heures, mais c'est vrai que le rendu était pas du tout ce que nous on attendait, et finalement servait pas vraiment la cause, en fait, parce que au départ, voilà, comme je l'ai dit, c'était quand même pour faire la promotion du don. Je suis pas convaincu qu'avec ce qui a été retranscrit, on a recruté beaucoup de donneurs, si tu veux.
Bon, là, on a une heure où tu vas avoir le temps de t'exprimer, parce que c'est l'un des problèmes aussi des médias d'une manière générale, c'est qu'ils n'ont pas le temps et qu'il faut passer à un autre sujet, quoi, tu vois. Donc là, vraiment, on a une heure, on va être ensemble, on va discuter de tout ça. Moi, j'ai plein de questions très bêtes et très naïves que je vais te poser. En plus, j'ai pas t'as fait plus que ça le sujet, si tu veux. Encore une fois, j'attends de toi que tu me nourrisses, et je vais poser des questions un peu idiotes. Sans doute même idiotes, donc excuse-moi d'avance. en fait, avant ça, l'une des premières questions que je pose à mes invités, c'est comment t'es venu, toi, l'envie d'enfant ?
Ah. Alors, ça, c'est, à mon avis, une réponse pas très originale, c'est-à-dire que...
Commence pas à le juger.
Ouais, culturellement, en fait, voilà, moi, je viens d'une famille où j'ai donc trois frères et sœurs, donc, on va dire deux demi-sœurs, si j'aime pas trop le terme, mais voilà, pour te dire qu'on n'a pas le même papa, et un grand frère, donc deux jeunes sœurs et un grand frère. Et donc, en fait, si tu veux, naturellement, pour moi, la composition, le futur de tout homme ou de toute femme, c'est de fonder une famille. Tu vois, si vous voulez, il y avait pas du tout de réflexion derrière ça. C'était plutôt un bagage culturel que j'avais qui m'emmenait vers cette destination. Voilà, c'est avant tout ça. Après, j'avais quand même une appétence. J'aime beaucoup les enfants. Alors, je sais pas, je dois avoir une tête rigolote, parce que généralement, ils m'aiment bien aussi. Surtout les jeunes. X fois dans des centres commerciaux, où des petits sont venus voir en me disant « Papa, je dis « Non, c'est pas possible. » tu vois le truc. Donc voilà, une belle appétence pour les enfants. J'ai même, si tu veux, alors ça, les plus anciens s'en souviendront, débuté ma carrière professionnelle en tant qu'aide éducateur en école maternelle. C'était les emplois jeunes à l'époque.
Ah oui, c'est vrai.
Hein, donc pour info, j'ai bientôt 46 ans. Donc c'était les emplois jeunes.
Ah, il y a des gens très bien.
Et il paraît. Et donc c'était les emplois jeunes, et donc j'ai commencé en tant qu'aide éducateur en école maternelle, en me disant que ça pourrait être une bonne passerelle, parce que tu veux, j'ai une scolarité un peu chaotique. Donc je m'étais dit que c'était une bonne passerelle pour pouvoir m'occuper d'enfants d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que je me suis dit, vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec les enfants. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais à Paris, et à Paris, quand tu gagnes 5000 francs à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent cette ancienne monnaie.
Souvenez-vous, les jeunes.
Oui, sur le RTF, c'est magnifique. Donc 5000 francs, t'as 600 francs de carte orange, c'était la carte orange aussi à l'époque. Donc en fait, tu vis pas. Donc si tu veux, donc moi j'ai fait ça un an et demi. Et la mort
francs,
dans l'âme.
5000 francs, c'est l'équivalent du... C'est même un peu
c'était
moins.
Le SMIC à l'époque, ouais, 5100 francs, un truc comme ça, c'était l'équivalent du salaire minimum. Et donc, j'ai vite compris que je pourrais pas vivre de ça. Donc, je suis parti sur une carrière professionnelle tout autre, qui était plus en corrélation, si tu veux, avec mes diplômes. Et donc, j'ai toujours eu effectivement ce bon contact, en fait, avec les enfants, et je m'étais dit, voilà, que naturellement, si c'est possible, j'aimerais avoir des enfants. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, c'est avant tout culturel, si tu veux.
D'accord.
Pour schématiser.
J'imagine qu'un jour, tu rencontres une personne avec qui le projet se concrétise un peu plus, quoi.
Oui, oui, t'es bien informé. T'es très bien informé.
C'est pas un jeu. Ouais, non,
tu sais plein de trucs. Oui, alors, effectivement, donc, pour diverses raisons, je suis arrivé donc dans la région toulousaine. Donc, j'ai rencontré ma femme, Isabelle. Et assez rapidement, alors de manière ce que j'avais jamais ressenti finalement avec une autre femme, assez rapidement, je m'étais dit bon bah voilà, c'est
she's the one.
Yes, of course. Voilà, c'était elle et ça me paraissait évident. Alors de par ce qu'elle était, de par ce qu'elle dégageait aussi, où je voyais aussi en elle une maman qui pourra être une maman aimante et bienveillante. Voilà, donc ça, c'était vraiment... Ça paraissait assez naturel. Et donc, très rapidement, on a eu ce désir... enfin, on a lancé les opérations.
Le projet.
Voilà, le projet. Et puis bon, bah, on a essayé comme de manière très classique, hein, comme tout le monde. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça prenait pas du tout. Et puis bon, bah, on s'est dit bon, allez, on va aller faire. Ma femme est infirmière, donc elle est, si vous voulez, assez ouverte à tout ce qui est en lien avec la médecine. Et donc forcément, on s'est dit bon, bah, on va aller faire un test. Alors, moi, je suis allé faire ce qu'on appelle un spermogramme. Donc
ça a duré combien de temps cette période
Rapidement, en fait, si tu veux, on a dû tester pendant. Alors, je vais peut-être te dire des bêtises, mais entre 6 mois et 1 an. Et assez rapidement, on s'est dit bon, on va quand même aller faire des tests. Et alors, c'est peut-être.
Pardon.
Ouais, fameux spermogramme. C'est un terme magnifique, mais le faire, c'est encore mieux. C'est une catastrophe, ce truc. Non, je plaisante, il faut le faire. Donc un spermogramme, donc concrètement, on analyse le sperme et le taux de possibilité de fécondation en fait du sperme. Et là...
Attends, faut que t'expliques quand même comment ça se passe.
Ouais. Enfin, tu veux que je t'explique comment ça se passe?
J'en ai fait un pour ma part, puisque j'ai fait une vasectomie.
Ah oui,
obligé de faire un spermogramme.
Ah oui, magnifique.
C'était
on va comparer nos expériences, c'est génial. Alors, je vous pose le décor. C'est important, c'est le décor, en fait. C'est pas tant ce qu'on va y faire, parce que je pense que tout le monde a compris. C'est le décor. Le décor est magnifique. Donc, vous êtes dans une pièce, on va dire 4-5 mètres carrés. Il y a une télévision qui doit être de l'époque de mes grands-parents. Hein. Et en fait, vous avez des bouquins, hein, dont certaines pages sont collées. Hein, je ne dirais pas pourquoi.
Ce sont donc des magazines de charme.
Voilà, des magazines de charme, ouais, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, ça existait.
C'était avant Internet.
Voilà. On n'avait que ça, hein, pardon. Donc,
et Canal+.
Et Canal+, avec la passoire devant les yeux, pour les plus anciens.
Mais vraiment, les jeunes, ils sont perdus, ils sont là, de quoi ils parlent.
On les a perdus, ils sont déjà partis.
Nous, on clique sur Pornhub et boum, on y est.
Voilà, donc on fait ce qu'on a à faire, hein, c'est-à-dire qu'on se masturbe, hein, avec plus ou moins d'envie et de...
Est-ce que t'as pas précisé que sur la télé, il y a moyen d'avoir du bon porno des années 80?
Ouais, alors il y avait carrément, alors, ça c'est pas des conneries, pourtant c'était il y a, ma fille a 11 ans, c'était il y a 13 ans.
Okay.
Il y a 13 ans, et c'était quand même un combi avec cassette vidéo. Je sais pas si tu vois le truc. Hein? Alors pour les plus jeunes, regardez dans le bon coin, il y en a un très bon prix. Un combi de télé, tu dois faire télé 36 cm, des tout petits trucs. Hein. On parlait en centimètres aussi à l'époque, pas en pouces. Et il y avait un lecteur cassette intégré. Ça, c'était le top, si vous voulez. C'est quand
on était au top.
Et donc, je me suis pas aidé d'artifice. On va dire, j'ai laissé faire mon imagination. Hein, donc, et puis. Votre femme vous accompagne pas en plus, hein, dans ces moments-là, donc il y a pas d'aide. Donc on se masturbe, on fait le prélèvement dans un flacon, un tube, exactement. Hein. Et puis voilà quoi. Après on ferme et puis on ressort tout content avec quelques grammes de moins. Et puis voilà quoi. Et donc on transmet ça au médecin pour analyse, voilà, au labo pour analyse. Et là, si tu veux, bah le verdict est sans appel, c'est 0% de chance. Mais zéro. Pas une, pas pas deux, pas une sur un million, non. C'est zéro, aucune pourcent de chance. Donc, complètement, ce qu'on appelle une azoospermie.
Hein, pour, ok.
Voilà. Donc, zéro. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, bah.
Alors là. Comment tu vis le truc, toi?
Alors, moi, je le vis, bah, plutôt mal, parce que si tu veux, alors là, c'est la fierté, tu sais, la fierté de l'homme soi-disant viril qui est viril parce qu'il peut engendrer des enfants, c'est une remise en cause de mes espérances, de la construction de ma vie, de la construction d'une famille, tout ça, parce que finalement, bon, même si après on voit bien qu'il y a d'autres moyens de construire une famille, moi-même je viens d'une famille recomposée, donc je sais très bien que mais là sur le coup non, sur le
bien
coup
sûr.
Sur le coup, il n'y a pas d'autre moyen, c'est l'effondrement. Alors pour moi, pour ma femme aussi, qui reste quand même malgré ça, qui me le montre pas trop, parce qu'elle veut pas, elle veut pas me blesser, elle veut pas me faire de mal. Et donc là, là c'est un sacré coup sur la tête. Hein. Franchement, c'est un truc. Et puis le fait, et finalement, on se rendra compte que plus tard, c'était plutôt plutôt un avantage, le fait d'avoir aucune chance.
Oui, c'est qu'au moins ça réglait le problème, quoi.
Ouais, mais alors, au départ, je me suis dit aucune chance, ça veut dire que même la PMA, même rien, enfin, même si j'y avais pas vraiment pensé, mais je me dis aucune chance, c'est aucune chance. C'est-à-dire que même si on met tous les protocoles en marche les plus rigoureux, ça peut pas fonctionner. Il y aura pas de petit borin. Voilà. Donc là, c'était vraiment, vraiment difficile à vivre parce que, comme je te l'ai dit, non seulement moi j'avais ce désir d'enfant, et puis y avait ma femme qui avait aussi ce désir d'enfant, et moi j'avais envie d'avoir un enfant avec elle, pas avec. Enfin voilà, c'était elle quoi. Et donc ça, c'était vraiment.
Comment ça se passe au sein de votre couple? Tu disais qu'elle tentait d'être.
Ah, mais elle était là, elle était présente. Après, elle a eu des coups de moins bien aussi, hein, où ça a été à moi de la remobiliser. Mais si tu veux, et puis surtout qu'on n'a pas toujours été aidés, hein. Moi, je me suis entendre dire par la mère de ma femme, bon, bah, est-ce que, donc tu restes pas avec lui, quoi. Ah, ah oui oui, ah ben oui. Dure. Ben oui, parce que si tu veux, nous hommes, on a des clichés, mais finalement les femmes ont les mêmes clichés sur nous, et pour elles un homme qui peut pas procréer, bah c'est pas un homme, ou à quoi il sert.
T'avais jamais eu ce truc, parce que moi je crois que j'avais un peu cette peur quand j'ai grandi, j'étais adolescent, de me dire peut-être un jour je serai stérile. Ça t'est jamais
si. Oui. Ah si, mais moi j'en étais. Alors c'est marrant que t'en parles.
C'est un vrai truc, je crois, dans la tête des mecs. Hein.
Mais je pense que c'est. Mais ça, c'est la pression sociale en fait qui fait ça. C'est que tu te dis pas finalement je vais être stérile. Je pense, tu me dis, je risque de pas être un vrai homme. C'est ça. En fait, je pense que moi, je l'ai. Alors, j'ai beaucoup réfléchi depuis. Ça, je te dis ça avec beaucoup de recul. Ouais. Je l'avais pas du tout à ce moment-là. Beaucoup de recul. Je me suis dit, non, c'est pas finalement le fait de pas avoir d'enfant. Le problème, c'est le fait de, vu que tu n'en as pas, tu n'es pas un homme. Et donc, vu que t'es pas un homme, bah, vu que ton boulot entre guillemets d'homme dans un pays assez quand même patriarcal, c'est de ramener des sous à la maison et de faire des mômes. Ben là, déjà, tu fais pas de mômes. Voilà, déjà, là, t'es bon. Déjà, t'as 50% du truc. Enfin, c'est pas pour toi. Donc, c'est vrai que ça fout un sacré coup de bambou. Et effectivement, je me suis. Alors, c'est pas. Si tu veux, moi, j'ai pas l'habitude de prendre beaucoup de comment dirais-je, de considération pour ce qu'on peut me dire, notamment quand c'est des vacheries, parce que,
ouais. Enfin,
une belle vacherie. Mais ça m'a foutu un sacré coup, et alors, on me l'a pas dit à moi, hein, bien sûr, on me l'a pas dit en direct, hein, tu t'en doutes bien. Mais voilà, j'ai pris un bon coup sur la tête, mais si tu veux, ça a été assez rapide. J'ai une capacité à me.
J'allais te demander, en fait, avant de passer à la suite, est-ce que tu en as parlé avec tes potes, tes amis, mec?
Alors, moi, j'ai deux vrais amis, tu vois, on s'est connus en sixième, tu vois, donc ça fait 35 ans. et donc, oui, je leur en ai parlé à eux, mais qu'à eux, si tu veux, parce que c'était pas forcément, enfin, tu vas pas forcément le crier sur tous les toits.
Bien sûr, comment ils ont réagi?
Bah eux, ils savaient pas quoi me dire, hein, qu'est-ce que je te dis, hein. Et puis on était jeunes, hein. Moi, quand j'ai su ça, j'avais à peine une trentaine d'années, donc quel recul tu as? Ouais, t'as pas énormément de recul, t'as vraiment pas beaucoup de recul. Et eux deux n'avaient pas d'enfants à l'époque, hein, non plus. Donc si tu veux, ils étaient dans la compassion, mais.
Puis il n'y avait pas Benoît d'autre. Qui parle pendant une heure dans un podcast pour expliquer son truc, quoi, tu vois, à l'époque,
exactement,
ça n'existait pas.
Exactement. Ouais. j'étais un peu démuni. Ouais, j'étais complètement démuni, quoi. Voilà. Donc après, on a quand même assez vite rebondi. Parce que si tu veux, après, moi, j'ai fait mon auto-analyse et je me suis dit, d'où tu viens? Tu viens quand même d'une famille recomposée. Moi, il faut savoir, rapide, hein, mais ma mère a quitté mon père, j'avais 10 ans. 10-11 ans, j'étais en CM2, donc 10-11 ans. Donc après, je l'ai très peu vu. Mon papa, qui est décédé, j'avais une vingtaine d'années. Donc je l'ai très peu vu. Donc, si vous voulez, figure paternelle présente, mais pas là pendant l'adolescence, par exemple. Donc ma mère s'est mise avec une autre personne, avec qui ils ont eu 2 enfants, figure paternelle moyenne associée, enfin voilà, c'était vraiment pas top. Je sais plus où je voulais en venir là.
Sans doute que tu me disais d'où tu viens, j'imagine.
Oui,
que
voilà.
Il peut y avoir.
Oui, voilà. Donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit quand même, si tu veux, j'ai connu plus le père de mes sœurs, de mes demi-sœurs, que mon père à moi, en tout cas au quotidien.
Qui était donc pas ton père biologique.
Voilà, tout à fait. Et finalement, je me suis rendu compte que même si lui, c'était loin d'être parfait, mais je le suis pas non plus.
Qu'il est,
voilà.
Hein, que le père parfait vienne voilà. Lui jeter la première pierre.
Il y aura un podcast là-dessus de 8 heures. Très prochainement.
La bonne recette.
Soyez, voilà.
Pour être un père parfait.
Voilà. Et donc, je me suis quand même souvenu que, bon, bah, lui s'était occupé de moi. Il avait, subvenu à nos besoins primaires. Hein. Se loger, manger, ce genre de choses. Il était quand même là parfois pour faire certaines activités. C'était pas dingue, mais il avait fait quelque chose, si tu veux. Et c'était pas techniquement ou biologiquement mon père, quoi. C'était pas le cas. Donc je me suis dit, mais oui. Donc là, j'ai repensé, si tu veux, j'ai repensé la famille. Et notamment, j'ai repensé la filiation. Ça, c'est important, la filiation.
Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. C'est quand même une époque avant les réseaux sociaux, en plus. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole se libère, on parle de plus en plus de la famille, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément évident de trouver des témoignages.
Ah non, non. Ah, mais, alors, j'en ai pas cherché, mais j'aurais même pas su où chercher, ouais. Finalement. Franchement, et puis effectivement, aujourd'hui, on tape sur un moteur de recherche, on peut avoir des tas d'infos sur plein de choses, alors des conneries, mais aussi plein de choses intéressantes et surtout qui permettent de tracer un chemin, finalement. Et donc, j'ai pensé filiation, je me suis dit, mais en fait, la filiation, déjà, la filiation, c'est un terme juridique. C'est le Code civil, Napoléon, et avant, ça remonte à l'Antiquité pour certains. Et donc, la filiation, je me suis dit, mais la filiation, non, la filiation, c'est avant tout culturel et social. C'est-à-dire, c'est avec qui tu fais ta vie, comment tu l'as fait, les rencontres que tu fais. C'est ça, finalement, l'affiliation. On n'a pas, si tu veux, on n'a pas été avant d'être. C'est pas quelque chose... c'est pas... je suis né de Madame X et Monsieur Y, donc je suis Monsieur XY. Non, c'est pas vrai. Enfin... C'est mon avis. Pour moi, ça n'est pas vrai. C'est pas ça. L'affiliation, c'est finalement ton parcours de vie, ta filiation. Et ce que vont faire les gens qui sont autour de toi. On parle d'une famille, mais il y en a qui ont plusieurs familles. Moi, j'estime que, tu vois, je vais te le dire, j'estime que j'ai deux familles. J'ai ma famille, donc ma famille biologique, hein, qui est présente, et ainsi que le père de mes jeunes sœurs. Mais j'ai aussi une autre famille. J'ai, pour tout te dire, un de mes meilleurs amis qui est en région parisienne actuellement, et dont qui est d'origine sénégalaise, en fait. Donc les parents sont nés au Sénégal, et qui m'ont toujours considéré comme leur fils. Et si tu veux, ça c'est ce qu'on appelle la famille de cœur, un peu, tu vois, c'est la famille qu'on choisit. Cette famille là finalement, elle t'apporte parfois, encore une fois, ça dépend des parcours de vie, mais parfois plus que ta propre famille, ou en tout cas des compléments de ce que tu n'as pas eu, ou de ce que tu ne doutais même pas de l'existence auparavant. Donc c'est ça, finalement. Et en réfléchissant à ça, tu te dis mais t'es le roi des cons de
si, si, je suis pas obligé de t'insulter.
Ah, si, si, si. Je dis, mais t'es con de penser que finalement, c'est parce que t'aurais des spermatozoïdes pas feignants que tu pourrais pas être capable d'emmener quelqu'un vers un chemin, d'emmener tes enfants. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir des techniques qui permettent d'avancer et d'obtenir des résultats, d'avoir des enfants. Et donc là, je me suis dit, non, mais Benoît, t'avais complètement fait fausse route. Et ça a été quand même, le cheminement était quand même assez rapide.
Okay.
Si tu veux, dans ma tête, parce que, pas du genre à m'abattre, si tu veux.
T'avais besoin de rebondir, je crois, en plus.
Oui, c'est ça. Déjà, faut encaisser. Hein, c'est un peu comme un boxeur. Ouais. Là, t'as pris un bel uppercut. T'es dans les cordes, bon là il y a un round qui vient de passer, et là tu te dis, bon, tu te remets et t'as une nouvelle stratégie à employer. Et là, stratégie, il y a la PMA, il y a l'adoption. Alors l'adoption, on en a parlé. Après, on s'est très vite rendu compte que c'était pas forcément très pratique en France, ou surtout pas accessible, hein, clairement. On avait en plus un couple d'amis qui a réussi à adopter depuis, mais qui a mis 8-10 ans à avoir des enfants, pas l'agrément, ils l'ont eu, mais au bout du deuxième, la fin du deuxième agrément, ils ont eu un enfant, donc je crois quasiment 10 ans. Et donc, et puis moi, j'avais envie de voir Isabelle enceinte. Okay. Et elle avait envie d'être enceinte aussi. Donc ça, c'est pas...
Vous en avez discuté tous les deux,
c'était un peu, pendant un temps, c'était un peu la discussion centrale à la maison. Même si c'était pas la seule, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Donc on en a discuté. Et très vite, elle, ça lui posait pas de problème non plus. C'est une femme qui est très ouverte, qui a pas de...
Oui, elle a pas buté sur le fait que...
Elle a pas buté, elle a...
spermatozoïde ou rien.
Ouais, voilà. Elle a pas buté parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est être enceinte d'un enfant dont je serais le père. Après, la méthode, finalement, on va pas dire importer peu, mais c'était, si tu veux, on a essayé de désacraliser un peu le... Pour nous, c'est de la technique, en fait, tout ça. Une fois qu'on a pris le gros coup de massue, après, tu en parles, bon, t'es reçu par des gens qui vont t'expliquer comment ça fonctionne, et finalement dans ta tête tu te dis, mais ça en fait c'est de la technique, c'est du progrès, en fait c'est du progrès qui va te permettre peut-être de devenir parent. Et finalement les gens qui pensent que la filiation c'est un père et une mère, déjà obligatoirement, ce qui est largement contestable, et en plus c'est la filiation se fait au moment finalement de l'éjaculation presque. Voilà, t'as éjaculé, t'as de la filiation. C'est réducteur.
C'est très réducteur.
Enfin, en tout cas, à mon sens. Donc, mais si tu veux, ça, c'est moi, je t'en parle aujourd'hui. Je fais le malin, mais ça fait il y a peut-être 30 ans, je t'aurais dit oui, c'est ça la filiation. Hein, viens pas m'emmerder avec tes questions. C'est la filiation, c'est ça. Et donc je jette pas la pierre à ceux qui pensent ça. Moi, je dis juste qu'il faudrait peut-être qu'ils pensent leur ne serait-ce que leur entourage. Pensez votre entourage, c'est-à-dire regardez bien aujourd'hui des familles recomposées, monoparentales ou il y en a à foison. Hein. Si je pense que si vous allez devant les portes d'un collège, vous devez avoir au moins un tiers des parents qui sont séparés de petits. C'est pas pour ça que il n'y a pas de filiation. C'est pas pour ça qu'on s'occupe pas donc des enfants. Et c'est pas parce que justement on a donné son sperme à un moment donné de manière ultra classique qu'on est un bon père ou une bonne mère si c'est enfin voilà donc si tu veux voilà ce qui est pour moi essentiel c'est cette notion de filiation qui est avant tout culturelle sociale et culturelle c'est ça qui fait que tu vas devenir l'homme que ou la femme que tu vas devenir le reste à mon sens ça pas un intérêt de savoir d'où tu viens, ça, enfin pour moi ça n'a pas un intérêt, enfin c'est pas intéressant. Voilà.
Ok. Donc vous décidez de vous lancer dans un processus de PMA, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Avec donc Isabelle. On décide de se lancer là-dedans. Alors c'est un parcours hyper cadré, hein. On est en France, hein. Mais franchement cadré. Mais avec le, au départ on nous annonce concrètement 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir les premières inséminations. D'accord. Alors ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est plutôt bien, 1 an et demi, 2 ans, parce qu'aujourd'hui, 2 ans, c'est le temps moyen pour avoir un enfant pour un couple pas stérile. Hein. Donc finalement, on est sur des standards plutôt largement acceptables. Voilà, donc un parcours de 2 ans. Donc il y a différents rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous récurrent, c'est avec la psychologue, parce que si vous voulez, là, on est, enfin, je dis si vous, parce que je parle aux auditeurs, hein, je te parle pas à toi.
Non, mais t'inquiète. Tu mais tu peux
si
me parler.
Veux, hein. Ouais, si tu veux, ouais, c'est vrai, autant pour moi. Si tu veux, il y a cette particularité, c'est que on veut être sûr que tu veux bien un enfant. T'es super motivé, que les motivations sont pas des motivations futiles ou genre le couple va pas donc on va faire un môme, hein, ça marche pas, ça faut pas le dire au psy ça. Donc on rencontre plusieurs fois le psy.
C'est fou parce que imagine on ferait ça au couple.
Ah ben ça serait l'enfer, il y en aurait moins. C'est pour ça que c'était un petit joke ouais. Pour effectivement quand j'entends ce genre de choses parce qu'on l'entend encore ça marche pas enfin je pense pas que ça fonctionne. Donc en fait si tu veux il y a différents professionnels donc le fil rouge c'est la psy qu'on voit plusieurs fois je crois à quatre reprises qui nous voit au début tout au long du parcours pour voir comment ça va et tout ça comment évolue en fait notre vision de la procédure qui peut paraître longue fastidieuse. Alors je dis longue fastidieuse aujourd'hui on doit parler de moi mais là je suis obligé de parler de ma femme parce que c'est elle qui fait tout le boulot.
Tu peux, hein.
Non mais c'est elle qui fait tout le boulot quoi. Oui. C'est elle qui va alors les rendez-vous se font toujours à deux, mais après la technique, tout ça, après c'est elle. Donc on va rencontrer donc la psy, on va rencontrer un généticien. C'est important parce qu'effectivement, ça serait pas déconnant que le donneur, même s'il y a très peu de donneurs, que ses caractéristiques physiques soient pas trop éloignées des miennes, ou si on n'a pas de donneur qui entre guillemets me ressemble, d'avoir un donneur qui a les caractéristiques physiques de ma femme. Parce qu'effectivement, si il y a un truc tout con, mais si le donneur est asiatique, moi je suis ce qu'on appelle de type caucasien, ça va faire bizarre. Bon, pour la petite info, ma fille est née, elle avait une jaunisse, elle avait des cheveux très très longs, très noirs, et les yeux en amande. On avait trouvé ça très très mignon, c'était très mignon. Elle était magnifique. Et donc le généticien, ça c'est hyper important. C'est hyper important. On a vu aussi le gynéco, enfin voilà, tout un tas de professionnels et qui nous ont accompagnés. Alors ça n'a pas été évident. Franchement, c'est long. C'est souvent quand on a un rendez-vous, c'est de l'organisation, c'est-à-dire une matinée où on doit se arrêter de travailler. En tout cas, on doit prendre des matinées à chaque fois parce que vous arrivez à 1 heure, vous savez pas quand vous passez, et vous savez surtout pas quand vous repartez. Donc ça peut être parfois très long, un parcours qui est pas évident. On a eu des coups de moins bien forcément. On se demandait si ça fonctionnait, mais encore une fois, on avait quand même cette chance. Aujourd'hui, c'est voilà, avec le recul, je dis que c'est une chance, c'est que il n'y avait pas de moyen, si tu veux, autre que le don de sperme pour avoir un enfant. Il n'y en avait pas d'autre. Donc, alors que pour la petite...
Pourquoi tu dis une chance?
Mais parce qu'en fait, si ton sperme est juste un peu feignant, mais qu'il est un peu encore de tonus, on peut, si tu veux, stimuler.
Ok.
Ça, c'est possible. Tu peux stimuler. Il y a des gens, ça fait 8, 9, 10 ans qu'ils stimulent, quoi. Enfin, j'exagère, mais on a rencontré des... parce qu'il y avait des groupes de parole, une fois que notre grande fille aînée, Mao, il y a eu des groupes de parole auxquels on était invités pour dire, bah voilà, ça marche. Et on avait des gens en face de nous qui étaient en grande détresse, ça faisait 7-8 ans qui testaient parce que ils avaient cette petite chance, si
je
tu
comprends.
Veux. Nous, on est passé directement au stade ultime, c'est-à-dire don de sperme et un sperme efficace, quoi, si tu veux, si on peut utiliser le mot pour garder
on est dans une société productiviste.
Oui, oui, non, surtout technique, surtout, c'est pour rester sur l'aspect technique. Donc c'était efficace. Donc finalement, donc au bout de.
Mais de ton côté, toi, pendant tout ce temps-là, comment tu vis le truc? Parce que, comme tu dis, c'est ta femme qui fait tout le boulot.
Alors, nous, on fait tous les rendez-vous, hein, ouais. À deux. Elle a un peu plus de rendez-vous que moi, parce que non seulement moi, il faut. Alors moi, je fais plus rien. Techniquement, je ne ferai plus rien. Mais elle, il va falloir que ça fonctionne aussi de son côté. Donc elle a des rendez-vous parce qu'il y a un protocole de stimulation, si tu veux, à mettre en place, qui sera mis en place au moment où va y avoir justement les inséminations. Donc moi là, je suis plus dans un rôle d'accompagnement de ma femme dans ces moments-là. J'étais à tous les rendez-vous, hein. J'en ai pas loupé un. Je me faisais fort d'être là, mais effectivement, on le vivait pas trop mal. Il y a eu des moments de moins bien, si tu veux, mais on était soudés dans un objectif, si tu veux, on allait dans le même sens et on a.
Elle t'en a jamais voulu, par exemple, tu vois, à rebours.
Jamais.
Tu sais, ça pourrait être.
Elle me l'a pas dit.
Oui. Ça voilà, pourrait être un truc qui pourrait exister, quoi.
Ah oui, non, mais peut-être que ça existait chez elle. Hein. Peut-être qu'un jour elle me le dira. Mais en tout cas, elle l'a jamais laissé transparaître et elle a toujours été fidèle à notre ligne de conduite et puis pour ça et pour tout le reste, il y a encore plein de choses à venir. Je la remercie. donc moi, je l'ai vécu, voilà, dans un style d'accompagnement et tout ça. Voilà, après 2 ans, on a eu un peu moins de 2 ans, j'ai plus les dates en tête, mais après à peu près 2 ans, on a eu les premières stimulations. Alors pour la petite histoire, ça c'est un peu sympa, c'est que la première stimulation a eu lieu le matin de notre mariage. On s'est marié le 9 mai 2019. Donc elle s'est mis une bonne piqûre. Alors ma femme est infirmière, donc elle adore piquer les autres, mais elle aime pas. Elle aime pas se faire piquer, donc elle s'est auto-piquée, si on peut le dire. Et donc 9 mai 2019, première stimulation, donc en vue d'une insémination prochaine, en fait.
Attends,
d'accord.
2019.
2019, autant. 2009, autant
okay,
pour moi.
J'allais dire. Y a un truc
9 mai 2009, okay, autant pour moi. Donc première stimulation, et après, donc il y en avait à intervalles réguliers jusqu'à l'insémination, en fait. D'accord. Donc l'insémination, pareil, ça c'est hyper contraignant. C'est-à-dire qu'un jour on vous appelle, on dit demain matin. En fait, ma femme fait des examens assez réguliers une fois qu'elle a fait les stimulations. Et un jour on vous appelle, bon bah demain matin vous êtes là, c'est l'insémination. Et c'est pas après-demain et c'est pas demain après-midi. C'est demain matin parce que si tu veux, eux ils sont dans le voilà, il y aura c'est là qu'il y aura le plus de pourcentage de chances que ça fonctionne. Donc faut être là, il y a pas d'autre alternative.
C'est quand même fou le progrès, hein, quand même.
C'est clair.
Tu
ah oui non
ça,
mais c'est
dis...
on se dit que ouais c'est dingue. Donc la première n'a pas fonctionné, hein, donc ça fonctionne pas tout le temps. Hein. Donc nous on a eu on a accusé le coup un peu parce qu'on s'est dit bon on a tout fait c'est bien mais bon c'est pas grave allez on continue donc deuxième troisième jusqu'à la quatrième qui elle a fonctionné donc moi je me souviens encore si tu veux de l'appel que m'a fait ma femme j'étais entre deux expertises là. Je vois très bien où j'étais à Toulouse je revois ce lieu je me vois encore je me souviens même comment j'étais habillé pour te dire. Et elle m'appelle, elle me dit ça y est, c'est bon. Moi, je suis allé toutes les larmes de mon corps là même là, ça me monte, tu vois. Tous les larmes de mon corps quand je l'ai su, c'était un moment indescriptible. Bon, je pense comme tout parent qui apprend qu'il va être enfant, hein, mais c'est incroyable. On s'est dit mais c'était pas possible et c'est arrivé. Et ça.
Combien de temps le parcours
Bah en tout, un peu moins de 2 ans et demi. Okay. Un peu moins de 2 ans et demi. Ce qui est pas dingue, hein, dans l'absolu, hein. Nous, on était, de ce qu'on avait entendu, on s'était dit que c'était possible que ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais on s'était dit, allez, on est reparti peut-être pour 5 ans, 6 ans. Tu sais, on n'avait pas vraiment d'idée, parce qu'en plus, eux, par contre, c'est des gens très précautionneux, ils s'avancent pas, quoi. Hein. Ils savent très bien qu'il y a un aléa. Et donc, à partir de là, ils nous laissaient jamais entrevoir de porte de sortie définitive et bien, bien, bien précise. Et c'est tant mieux, je pense.
Et juste une petite question, mais peut-être complètement hors sujet, mais il n'y a pas un moment donné où vous êtes dit tous les deux, bon, bah, peut-être on peut vivre sans enfant? C'est, ça a jamais été, tu sais, au moment où tu apprends, toi?
Non. Je te dis, j'ai eu le coup de bambou. Et après, tout de suite, on s'est dit comment on fait pour faire. Mais il n'y a pas eu, en tout cas, dans ma tête à moi, je pense, en parlant pour Isabelle, que c'est la même chose pour elle. Dans ma tête à moi, il n'y a pas eu ce moment, effectivement, où bon, bah, on laisse tomber.
OK.
Non, parce que si tu veux, faire ça, ça aurait voulu dire, à mon sens, encore une fois avec le recul, hein, à mon sens, que finalement on n'était pas motivé. Finalement, on avait ça comme on voulait s'acheter une nouvelle bagnole, quoi. Ouais. Bon, bah, on laisse tomber. Pas la bagnole. Ça a rien à voir. C'était une vie. C'était une famille qu'on voulait construire. Donc, non, moi, ce moment-là n'a pas existé. Non.
Tout à fait. Et bien, tant mieux.
N'est-ce pas?
Comment se passe donc cette grossesse? Parce que ça y est.
Alors, la grossesse, c'est une grossesse. En fait, c'est une grossesse comme toutes les autres.
Ok.
Ouais, il y a un suivi un peu plus important au tout début, donc on a une écho que beaucoup n'ont pas. C'est une écho, je crois, de quelques semaines où vraiment, on parle en millimètres, hein. On parle en millimètres, et généralement, il n'y a pas d'écho aussitôt, c'est pour savoir si tout va bien. Et après, une grossesse, ma femme a vomi du premier au dernier jour, hein, donc quasiment du premier, pas du premier, mais dans les premiers jours, elle a commencé à vomir jusqu'au jour de l'accouchement, la pauvre. Oh. Donc certaines, je pense, se reconnaîtront là-dedans en disant, bah oui, effectivement, ça arrive aussi quand on fait ça de manière naturelle, donc une grossesse difficile à ce niveau-là. Mais après, la grossesse s'est passée comme, je pense, toutes les grossesses, il n'y a pas eu de problème particulier, non, une grossesse plutôt limpide voilà, quoi.
Ok. Toi, de ton côté, comment tu te prépares à devenir papa?
Alors, je sais pas. Okay. Je sais pas comment je me prépare. Moi,
j'ai l'impression, tu vois, que de ce fait-là, ce processus de PMA te met aussi, toi, dans une position de te projeter, tu vois, en tant que père. Et c'est souvent un truc qui est compliqué chez les futurs pères, tu vois, c'est de se projeter.
Je me suis pas projeté. Okay. Je me suis pas projeté. Il y a quand même, il y a un truc que j'ai oublié de te dire dans le parcours PMA qui est un peu particulier et qui quand même t'engage un peu plus. Et là, c'est une partie plus légale, c'est-à-dire que moi, je suis allé déclarer mon enfant avant qu'il naisse, d'accord ? En fait, devant un juge, j'ai signé un papier. Hein, donc, mais je trouve ça très bien avec le recul. Au début, je trouvais ça, ça m'avait étonné. J'ai analysé le truc et je me dis non, mais c'est très bien. C'est-à-dire que là, on te met devant ta responsabilité, c'est-à-dire que t'as même pas encore l'enfant que tu pourras pas t'échapper, mon pote. Donc, c'est vraiment, je trouve ça plutôt sain. Plutôt responsabilisant, si tu veux.
Mais c'est fou quand même. Je me dis la même chose. Je me dis, mais pourquoi on fait faire ça aux parents qui font une PMA, tu vois, et pas aux gens qui utilisent la manière comme tu disais classique.
Ouais.
C'est intéressant ce double standard.
Ah oui. C'est. Mais parce qu'on peut pas le faire aux autres, parce qu'on aimerait peut-être le faire à tout le monde, mais que c'est pas possible. Mais mais moi j'ai trouvé ça c'était assez responsabilisant, si tu veux.
Hein.
Parce que moi alors c'est vrai qu'on fait ça dans un bureau, c'est pas devant un juge, c'est pas à l'américaine, hein, si tu veux. Mais j'ai trouvé ça. J'étais en train de dire, ben voilà, si j'ai un enfant, en fait, c'est ça le document, c'est si t'as un enfant, c'est le tien. Il y a pas d'échappatoire. Mmh. Donc ça, pour quelqu'un qui a un peu de, si tu veux, de respect de l'éthique, je trouve ça vraiment vraiment intéressant de faire ça, quoi.
Okay.
Donc après je me suis pas projeté, sincèrement, je me suis pas projeté, juste une énorme envie de voir arriver celle qui donc est devenue notre fille, hein, Mao, énorme envie de la voir arriver, mais je me suis pas vraiment projeté. D'ailleurs, une petite aparté, si je peux me permettre.
Bah, n'hésite pas.
Pourquoi Mao, hein, c'est important. T'allais me poser la question. T'allais me poser cette question. Donc tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté depuis le début, je parlais en fait de mon expérience en tant qu'aide éducateur en école maternelle. Et dans cette donc j'étais en école maternelle, et dans cette école maternelle, il y a une petite fille qui s'appelle toujours, j'espère, Mao, qui était la plus petite de l'école. J'étais dans une ZEP avec des petits garçons un peu turbulents, sympas, mais turbulents, mais un peu turbulents. Et donc, elle avait besoin toujours d'être un peu protégée. Et elle était toujours dans mes pattes. Elle était adorable. Elle s'appelle, sûrement toujours Mao. Et je m'étais dit à ce moment-là, ça c'est important aussi dans la construction de ma famille, que si un jour j'ai un enfant et que, bien sûr, la maman souhaite bien adopter ce prénom-là, que j'aurai une petite fille qui s'appelle Mao. Okay. Et Mao, ma fille, donc, adore entendre cette histoire-là, parce qu'elle a l'impression, et elle a raison, qu'elle a été conçue largement avant que même je rencontre sa maman.
Ouais,
et ça, c'est vrai que c'est un beau, c'est venu de loin.
C'est un beau symbole.
Ouais, voilà, c'est un beau symbole. Merci. Merci pour ça. Voilà, donc, voilà, pour la petite aparté sur Mao, donc, qui est né, il y a 11 ans bientôt, hein, le 22 juin, ça fera 11 ans. Et qui.
Comment se passe la rencontre avec ta fille?
À la rencontre. Alors, déjà, je vais te parler un peu de l'accouchement.
Si tu veux.
Si ça te dérange pas.
Moi, ça me va.
Non, parce qu'il y a un événement, c'est-à-dire que, donc, péridurale. Alors, pour celles qui connaissent, notamment, bon, elle a pas super bien marché, donc elle a marché d'un côté, mais pas de l'autre, donc ma femme a bien dérouillé. Et à un moment donné, le cœur s'était mis à battre un peu moins fort et tout ça, donc, branle-bas de combat. Moi, ils me laissent comme deux ronds de flanc dans la salle et ils amènent Isabelle pour une césarienne. Encore moi, là, si tu veux, moi, pour moi, ça a duré à peu près 200 heures. Alors, ça se trouve, ça a duré 10 minutes, mais je suis incapable de te dire aujourd'hui combien de temps ça a duré. Ce qui est sûr, c'est que, donc, elle est partie en salle de travail. Finalement, ils ont pu la sortir de manière naturelle. Donc, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Mais en fait, elle est descendue tout d'un coup, donc le rythme cardiaque a baissé, ça c'est compliqué. Donc pour plus de sûreté, oui, ils l'ont amenée dans une autre pièce. Et là, moi, j'ai jamais été aussi seul qu'à ce moment-là. Là, j'étais en train de me dire, dans quelques minutes, dans quelques heures peut-être, je vais avoir ma femme et ma fille à côté de moi, on va pouvoir... Enfin, tu l'idéalises le truc, forcément, quoi. Et là, je suis tout seul, comme un couillon dans une pièce, et j'ai ma femme, je sais pas ce qui se passe. Je te jure, j'ai l'impression que je sais pas. Ça a peut-être duré que 10 minutes, 20 minutes. J'ai aucune idée, mais ça a été un moment terrible. Et en fait, après, donc ils me rappellent et là ils me donnent. Enfin, ils ont commencé à faire à voir si tout allait, était ok pour Mao. Et après, ils m'ont donné. Alors là, j'ai surkiffé. Là. Si tu veux, pour la petite histoire encore, j'ai plein d'anecdotes comme ça. J'avais un t-shirt que j'ai ce jour-là que j'ai gardé, qui me va plus parce que j'ai pris un peu de poids, hein, quand même.
C'est ça de devenir papa.
Voilà, c'est ça.
C'est les problèmes.
Mais que j'ai réussi à ressortir pour la naissance de Marceau après. Eh oui, quand même. Et donc, elle était sur moi, elle bavait, elle en pouvait plus, elle hurlait, mais elle a hurlé pendant des heures. Mais moi, j'étais aux anges, quoi. J'entendais pas ses hurlements. J'étais je faisais corps avec elle, si tu veux, et un sentiment de plénitude, si tu veux, que j'ai rarement rencontré, quoi, un truc incroyable, comme un aboutissement, un peu, hein, même si on se rend compte que ça c'est que le début, en fait, c'est clairement pas l'aboutissement, mais le jour J, on se dit,
on est jeune,
insouciant, voilà, c'est ça, on a des cheveux.
Plein. Moi, j'en avais déjà pas. Moi.
Ah, d'accord, pardon. Ça n'a pas marché, alors. Donc, voilà, un moment de pur bonheur où plus rien n'existe à part ma femme et ma fille, et vraiment, vraiment super, super instant. Et je dis des pleurs. Pour la petite histoire, voilà, elle est née en pleine fête de la musique, hein, donc il y avait du bruit dehors, parce que on est, pour ceux qui connaissent Toulouse, on est. Clinique Sarus Teinturier, donc dans un quartier très où on fait la fête, hein, à Toulouse, et donc voilà, il y avait du bruit dedans, il y avait du bruit dehors. Moi, j'étais aux anges, voilà.
Comment se passe on va dire les premiers mois avec ton enfant, et puis j'imagine à un moment donné aussi il y a l'idée de concevoir un petit deuxième,
second,
quoi.
Ouais, c'est tout ça fait. Alors les premiers mois, de manière, je vais te dire, assez classique. Déjà, dès le lendemain, bon, ma femme ne vomit plus, hein, c'est bien. On s'est dit, bon, c'était pas une gastro permanente. Donc ça, c'est bien. Donc, elle ne vomit plus. Donc là, c'est très bien. Donc, un cheminement somme toute classique. Elle a une fille jamais malade. Alors, elle a été allaitée pendant, je crois, 20 mois, un truc comme ça. Donc, okay. Elle était allaitée très longtemps. Donc, jamais malade. Une fille qui évoluait bien. Alors, grande, hein, elle faisait plus de 40 cm, plus de 4 kilos. Donc, un beau bébé hein, qui faisait déjà 60 cm à 2 mois, quand même. Donc, un bébé en forme, quoi. Donc, pour tout vous dire, voilà, pour dire que, voilà, don de sperme ou pas, on peut avoir des bébés, des beaux bébés en pleine forme. Donc, jamais malade, qui évolue bien, qui grandit bien. C'était assez naturel. Moi, si tu veux, j'ai vu quand même, j'ai deux sœurs qui sont quand même nettement plus jeunes que moi. Et donc, j'ai vu ma mère s'occuper de mes enfants. Et Isabelle, pareil, elle s'est occupée pas mal de son plus jeune frère. D'accord? Donc, si tu veux, sans être des parents ou très aguerris, on avait quand même deux, trois bases, si tu veux. Pour s'occuper de l'enfant, en plus, là, vous êtes deux pour un enfant, donc c'est plutôt, ça se gère, on va dire. Ça se gère plutôt bien. Et donc, on n'avait pas une pression monumentale. Quelques soucis au départ pour Isabelle d'allaiter, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes. Mais voilà, des premiers mois qui sont plutôt sereins. Après il a fallu retourner au boulot et tout ça, mais on trouve une crèche sympa avec des gens bienveillants. On voit une petite fille qui avec des grands yeux qui évolue très bien. Enfin, elle est pour nous, voilà. Elle est tout ce qu'on avait, tout ce qu'on désirait, et puis elle est en train de devenir la grande fille qu'elle est aujourd'hui, avec toutes ses particularités, toute sa sensibilité. Donc 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, elle grandit bien. Moi, j'ai pas de, si tu veux, je me sens bien dans mon rôle de papa. Après, il y a eu un temps quand même où ça a été un peu plus difficile. C'est que pour des raisons professionnelles, moi, on a dû déménager, donc dans la région de Périgueux. Et si tu veux, un enfant, même quand ça s'est pas parlé ou très peu, ou ça fait des gna gna gna, ça s'est vite te faire comprendre que t'es pas suffisamment là. Donc il y a eu quand même une période où en fait, moi, ça m'arrivait de partir à 6h du matin, rentrer à 10h le soir. Et ça, 5 jours sur 7. Donc ça, de dire que ma fille, elle me l'a fait payer. C'est-à-dire que quand elle me voyait, elle était contente de me voir, on jouait ensemble. Par contre, si c'est moi qui allais la coucher, c'était impossible. C'est-à-dire que on avait des rituels de lecture, hein, comme je pense beaucoup de parents, d'écouter de la musique aussi, ce genre de choses. Ça lui arrivait de prendre le livre et de le jeter, mais elle le faisait qu'à moi. Et ça, vraiment, si tu veux, c'était dans la période où j'étais pas là. Clairement, j'étais pas là, pas suffisamment là. Moi, j'étais triste de ça. J'avais une bonne opportunité professionnelle, mais on m'avait un peu baratiné. Donc finalement, j'ai eu beaucoup moins d'aide que j'aurais dû en avoir. Donc j'ai dû beaucoup plus travailler. Et donc, voilà, elle me faisait payer. C'était le coup de... Je suis en train de la changer, elle est toute propre, elle me pisse dessus, elle faisait qu'à moi. Enfin, voilà, des trucs un peu comme ça où j'ai eu l'impression. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai surinterprété. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais en tout cas, ça voulait dire que moi, j'avais déjà cette blessure en moi qui me disait, Benoît, t'es pas assez là, t'occupes pas assez de Mao. Et donc moi, j'ai sûrement surinterprété. Mais bon. Pour moi, il y avait des signes.
T'avais comme des indices. Ouais.
Voilà, il y avait des signes, donc on en fait ce qu'on veut, hein, des signes. Hein, on les écoute, on les écoute pas, on les interprète pas. Mais là, j'avais besoin de ça. Donc finalement, nous, on a décidé de rentrer à Toulouse. Moi, j'ai trouvé un job un peu moins prenant, où j'étais plus présent. Et là, ça a déroulé. Ça a déroulé complètement et j'étais plus présent. Et aujourd'hui, Mao, on a beaucoup de chance avec Mao, c'est que si tu veux, souvent les enfants. Pour voir autour de nous, et je l'ai vu moi avec mes sœurs, toujours pas dire un parent préféré, mais un parent vers lequel ils vont plus facilement. Mao a toujours eu cette intelligence, un équilibre génial entre papa et maman, un truc mais incroyable, quoi. Vraiment, à part cette période-là dont je te parle, qui a duré quelques mois, vraiment une sensibilité. Elle avait, on dirait qu'elle a deux cœurs, si tu veux. Tu sais qu'elle en a donné un à papa à un moment. Et ça, génial. Et ça, ça nous a vachement aidés dans notre relation avec elle. Une jeune fille, bientôt une pré-ado maintenant, hyper très sensible et bienveillante. Et aujourd'hui, elle est toujours comme ça, quoi. Bon, on commence à la ramener, hein, parce qu'à 11 ans, on commence à la ramener. Mais c'est que le début. Mais voilà, donc une petite fille qui a bien grandi et qui aujourd'hui fait la fierté de ses parents, tout comme son frère d'ailleurs.
Super cool. Voilà. Et donc le petit deuxième. Alors quelle est l'histoire autour de Marceau?
Alors l'histoire autour de Marceau, je vais te faire aussi l'histoire du prénom parce que les prénoms ont une histoire chez nous. En fait, si tu veux, Marceau. Alors comme je t'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon papa est décédé assez rapidement. J'avais une vingtaine d'années et il s'appelait Alain et son deuxième prénom c'était Marceau. Et son père, à lui, s'appelait Marceau aussi, donc Marceau Borin. Et donc nous, on est, si tu veux, alors au-delà du fait qu'on trouvait le prénom joli. On a voulu perpétrer un peu ce prénom et ce nom et le nom qui va avec. Donc ça, c'est l'histoire, en fait, okay. Si tu veux, du prénom. Et donc après je me souviens pas exactement comment on en est arrivé à avoir un second, mais je pense que c'était dans l'optique, déjà dès le départ, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi j'aurais adoré avoir 6-7 enfants, tu vois, dans un élan de paternité, j'ai envie de dire. 6-7 enfants, enfin, tu sais, une grande fratrie, un truc incroyable.
Une équipe de basket, et donc, quoi.
Ouais, voilà. Avec les remplaçants. et donc, en fait, tout naturellement, on s'est dit, bah oui, feu, hein, faisons un deuxième, le premier, ça a marché. Et en plus, si tu veux, alors ça, c'est peut-être très terre à terre, mais quand tu passes sur un deuxième don, c'est plus court. La procédure est plus courte, donc en fait c'est qu'un an.
Okay.
Donc là, un an, t'es quasiment, enfin, tu vas même plus vite qu'un couple lambda pour avoir des enfants. Donc tu pars dans le coupe-fil, là, t'es bien. Et donc un an, j'ai trouvé ça très, on s'est dit, oh, ouais, ça c'est bien, un an et tout ça. Et donc on est reparti sur le processus, donc qui est beaucoup plus court. On a vu que je crois deux fois la psy. Bon, généticien, on l'avait déjà vu, donc il n'y a pas besoin. Enfin voilà, vraiment parcours réduit, toujours. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait. Je refais un aparté. Je profite de du temps qui m'est donné pour remercier tout le Sécos, hein, qui ont été des gens super. Alors il y a eu des moments où on n'était pas d'accord, où on n'était pas content, mais globalement ils ont toujours été à l'écoute et hyper bienveillants, discrets. Très compatissant, enfin voilà, une équipe.
C'est quoi les trucs, sans vouloir appuyer sur les trucs, mais c'est quoi les désaccords que vous pouviez avoir?
Alors, en fait, c'est sur, notamment, il y a eu un moment où il y a eu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais lors d'une insémination, on a eu rendez-vous avec un docteur avec qui ça s'est très très mal passé. En fait, elle est arrivée, c'était, je ne vais pas te dire une bêtise, ça devait être 7h30 ou 8h du matin, un samedi matin. Elle est arrivée, on croyait qu'elle venait de soirée. Elle était habillée, elle était habillée comme si elle sortait de soirée. Elle avait des bagouses énormes. Ma femme est infirmière, si tu veux, donc l'hygiène, elle est intarissable là-dessus et elle fait aucun cadeau. On n'était pas du tout dans le truc. Donc, ça, bien sûr, c'est sûrement pas à cause de ça, hein, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné ce jour-là. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième. Je crois la troisième. Ça n'a pas fonctionné. Et si tu veux, là, on a fait un courrier. Et en disant non, mais ça c'est pas possible, quoi. Cette personne-là, on la veut plus. Ça sera plus elle qui nous fera l'insémination. Si tu veux, on veut bien faire les choses. Pour nous, c'est, enfin, et notamment pour ma femme, c'est quand même pas anodin. Hein. C'est intrusif. On avait trouvé cette personne, mais d'une. C'est comme si elle nous donnait un doliprane, quoi.
C'est une légèreté, c'est ça.
C'était léger. Et puis surtout, c'était vraiment, bon, maniez-vous, parce qu'après, je retourne à la sauterie, quoi. Non, ça, c'était franchement, et surtout, c'était pas du tout ce qu'on nous avait habitué. Pour nous, elle est sortie de la lune, cette dame. Okay. De la lune, hein. Vraiment. On s'est dit, mais non, elle est pas de là. Qui est cette personne? C'est un fake, quoi. On va se réveiller. Et non, c'était un événement qui nous avait franchement heurté. En plus, c'était la troisième, voilà, oui, c'est la troisième. Et ça avait pas marché, donc on commençait à se dire, merde, c'est quand même...
C'est un bon conseil, je trouve, de se dire qu'en tant que patient, tu peux aussi venir exiger un truc, tu vois, des toubibs en face de toi, je crois que d'une manière générale, c'est
ouais,
c'est
alors
cool.
C'est vrai que c'est bien, et puis surtout, c'est pas... Alors, aujourd'hui, peut-être un peu plus, à l'époque des réseaux sociaux, où tout le monde se fait noter et tout ça, on va pas revenir sur quelques dérives quand même, mais c'est vrai qu'à l'époque... on avait des médecins globalement, alors encore une fois, pas ceux que j'ai rencontrés là-bas, mais il y a plein de médecins omnipotents, enfin c'est comme ça et c'est tout quoi, voilà, c'est moi qui sais, toi tu sais pas, le sachant c'est moi, t'inquiète pas, je vais y arriver, ou ne sais même pas, t'inquiète pas d'ailleurs, je vais faire ce que j'ai à faire, et moi je sais faire et toi t'y connais rien. Donc c'est vrai que moi je suis d'une nature où j'aime bien comprendre les choses et que je pars du principe que c'est pas parce qu'on veut quelque chose que faut faire n'importe quoi pour l'avoir. Et je pars aussi du principe que c'est un peu son boulot. Donc moi quand je fais mon boulot, alors il y a sûrement des fois où je l'ai très mal fait, mais ça a pas la même incidence. Là on parle d'humain, si tu veux le ce qui est fait, je pense que alors après c'est toujours pareil hein, elle vulgarise sûrement son job parce qu'elle va pas non plus verser une larme à chaque fois qu'elle insémine quelqu'un.
Bien sûr.
C'est pas ce que je demande. Après il y a un minimum. Il y a un minimum, tu vois, effectivement elle c'est son quotidien peut-être, mais moi je pense plutôt ça ressemblait si tu veux à un médecin qu'on a appelé au dernier moment, qui savait pas qu'il devait faire ça parce qu'un autre était peut-être malade ou indisposé ou que sais-je, ou de quelqu'un qui avait oublié. Voilà, et qu'on a sorti de Sanouba pour venir s'éminer. Voilà, le truc, l'enfer, quoi.
Ouais.
Franchement, donc moi, j'ai fait un courrier. Enfin, Isabelle et moi, on a signé un courrier qui nous a répondu en nous rassurant et tout ça. On en doutait pas, mais il fallait qu'on le fasse, quoi.
Ouais.
Voilà, pour leur montrer que, voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est pas parce qu'on demande quelque chose, pas parce qu'on a besoin d'eux, que tout est permis. Voilà.
Ok. Pour revenir à Marceau.
Voilà. Donc, on a lancé donc la procédure qui a duré une petite année. Et là, voilà, les techniques avaient changé en fait. Tu vois comme quoi ça évolue encore très fortement. Donc Marceau va avoir 7 ans et Mao 11 ans. Donc ils ont 4 ans d'écart. D'accord. Et en 4 ans, la technique avait complètement changé. Là, on était sur quelque chose de limite. Ça faisait un peu opération, tu vois. Mais par contre, là, du premier coup, bim, quoi. Ça a marché. Premier coup. Donc là, pareil, enchanté. Même la même chose que pour Mao. Hein. Je me souviens très bien où j'étais quand je l'ai appris. Vraiment un truc incroyable. Et pareil, grossesse où elle a vomi pendant 9 mois, la pauvre.
Désolé, on se marre.
Ouais.
C'est des femmes qui m'écoutent. Hein,
on est désolé. Non, mais la pauvre, pendant 9 mois, elle a vomi. Péridurale qui n'a pas marché non plus. Ouais, enfin, ouais. La moitié. Enfin, elle a encore bien jonglé, la pauvre. Et notre petite crevette, Marceau, qui est arrivée près de nous. Et encore une fois, enchanté. Ça s'est très, très bien passé. L'accouchement, là, était beaucoup plus. Il n'y a pas eu de frayeur, voilà, comme avec Mao, pas de frayeur. On est tombé, alors là c'est important, j'ai plus le nom en tête parce que c'est un nom un peu truqué sur un sage-femme, alors c'est pas ça le nom, mais j'ai plus le nom en tête, hein, qui est un peu particulier, qui a été génial. Franchement, alors il y avait très peu d'accouchements ce jour-là, donc on avait beaucoup de monde avec nous. Il a été super. Ce type-là, moi je veux dire, si je le vois demain, je l'embrasse, quoi. Il a été d'une. Il était jeune, hein, franchement, je suis même pas sûr qu'il avait 30 ans. Il avait une assurance, un aplomb. Et puis tu voyais qu'avec lui, il allait rien t'arriver, quoi. Franchement, le mec, ça c'est important, hein. Ça c'est hyper important. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, parce que la sage-femme, lors de l'accouchement de Mao, c'était à l'ancienne, quoi.
Ah.
Et ouais, c'est pas comme ça qu'il faut respirer. Vous avez pas fait les cours de préparation à l'accouchement. Ouais, bah, excuse-moi, elle essaye déjà de continuer à respirer, en fait. Donc tandis que là on était vraiment tombé sur un type génial, vraiment un type génial, et donc là l'accouchement, bon, elle a encore un peu morflé, mais ça s'est bien passé. Et Marceau est arrivé parmi nous, et donc lui, ça fait bientôt 6 ans qui fait 7 ans bientôt, ouais. Pardon, qui fait notre bonheur ici à Giroussens. Ouais.
Tes enfants sont grands aujourd'hui. Tu me disais au téléphone quand on s'est parlé au tout début que tu leur avais, enfin vous leur aviez expliqué en fait.
Ah oui, alors
d'où ils viennent.
Alors si tu veux,
j'espère.
Il fallait penser
là,
l'après.
T'es quand même en train de l'enregistrer dans un podcast à un moment donné.
Ah, c'est clair. Si tu veux, moi j'ai très vite. Alors tout à l'heure, je te disais que je m'étais pas projeté en tant que père, mais je m'étais beaucoup projeté en tant que futur père de parents nés de cette façon-là. parce que je me suis beaucoup intéressé à la question, forcément, depuis. Et si tu veux, notamment, ce qu'on entend, oui, ils vont rechercher leur vrai père, tu sais, le coup du vrai père, ou le père biologique, il faut pas leur dire, c'est un tabou, machin. Non, nous, alors nous, c'est pas du tout notre conception. Nous, on a même fait un livre, en fait, sur la naissance des enfants. Enfin, sur la naissance de Mao, mais qui est reproductible aussi pour Marceau, où on a expliqué, en fait, c'est un livre enfantin avec des abeilles et des fleurs, des graines, et enfin, t'as compris le truc.
Je l'ai, je crois.
Tu vois, tu l'as, je pense que tu l'as. Et donc, et à la fin, il y avait des photos d'écho et les photos des enfants quand ils sont nés et tout ça. Donc non, ce qui était important dans ce que j'ai lu moi, c'est que, et là, c'est les statistiques sont imparables, c'est qu'en fait, tous ceux qui, à un moment donné, ont recherché leur père, ce qu'on appelait biologique, ouais, j'aime pas ce terme, mais bon, voilà. Tous ceux qui l'ont recherché, à 100% des cas, c'est des enfants qui ont su sur le tard, en fait, qu'ils avaient été conçus comme ça. D'accord? Alors, beaucoup, quand je leur ai dit, on dit, ah, est-ce que tu vas le dire? Savaient pas trop, est-ce qu'il faut le dire? Et ça. J'ai dit, non, moi, j'ai regardé, j'ai lu des tas de trucs, il faut le dire. Il faut le dire parce que sinon, c'est vrai que t'imagines le traumatisme, on te dit que ton père, je suis quand même le père, mais que ton père, finalement, j'ai entendu des témoignages, à 50 ans, ils l'ont appris, à la mort du papa.
Ça veut dire que toute ton histoire est
un mensonge. Mais tu remets tout en cause, tout est un mensonge. Alors que finalement, nous, dans notre désir de désacralisation, finalement, non, bah voilà, techniquement, t'as été conçu comme ça. Fin de l'histoire, quoi. Alors, forcément, on enjolive un peu, mais si tu veux, si on veut caricaturer, c'est ça. Techniquement, ben voilà, papa avait pas de graines. Quelqu'un, on sait pas qui c'est, peu importe qui c'est, lui a donné une graine. Si tu veux, moi, je le mets presque au même niveau, c'est un truc que je dis régulièrement, ça, que le don du sang. Si tu veux, le don de sperme, ça permet d'avoir de donner la vie. Et le don du sang, ça permet de garder la vie, en fait. Tu vois? Et donc, je pense, alors, c'est facile à dire pour moi, je suis pas donneur. Mais je pense que, si tu veux, c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. C'est-à-dire qu'on a, on a des moyens techniques qui nous permettent aujourd'hui, dans la perfectibilité malgré tout de l'être humain, on a des moyens techniques qui nous permettent d'obtenir des résultats qui n'aurait jamais été, même ne serait-ce qu'évoqué, il y a quelques dizaines d'années. Donc, on s'en sert, tout simplement. C'est dans la nature de l'être humain de progresser, d'évoluer, et grâce notamment aux techniques. Voilà. Et donc là, la technique nous a permis d'avoir des enfants. Donc les enfants savent très bien comment ils ont été conçus. Autour de nous, tout le monde sait, en tout cas nos amis proches, moi j'ai même quelques collègues qui le savent. Aucun problème à en parler. Mais je suis, c'est pour ça, c'est d'ailleurs en Occitanie, on va dire en Midi-Pyrénées avant, j'étais un des rares qui a accepté de parler de ça. Malgré ça, chez les parents, c'est tabou. Et je pense que c'est une erreur. Je pense sincèrement que c'est une erreur parce que, si tu veux, les enfants, ils peuvent tout entendre. Un enfant, c'est une éponge. Quand il arrive, il est à zéro. Il n'y a rien. Et toi, tu lui donnes un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, la filiation culturelle, sociale. Donc, tu vas lui donner des éléments. Tu vas lui donner des éléments et lui, il va les intégrer. Il n'y a pas de problème, quoi. Et moi, ma fille, mon fils aujourd'hui... Alors, mon fils, je ne suis pas sûr qu'il ait exactement tout compris. Et lui parle moins. Il est moins ultra sensible que sa sœur. Mais je pense qu'il a compris quand même. Mais Mao, elle a complètement intégré. Alors, elle ne crie pas sur tous les toits. Je ne sais même pas si des gens autour d'elle le savent. Mais il y a pas de difficulté. Je suis son père. Voilà, je suis son père. C'est son histoire, mais ça pas non plus, ça revêt pas une surimportance, si tu veux. Et c'est important, justement, ça. C'est dans le but de désacraliser, c'est que, justement, faut pas que ce soit important. Voilà, faut pas que ce soit important. Donc, oui, les enfants le savent et on a tout fait pour qu'ils le savent. Mais effectivement, quand tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet ou de très loin et qui a jamais réfléchi, il va se dire, mais non, presque j'ai peur de lui annoncer. Mais attends, moi, je me sens pas fautif, hein, si tu veux. Moi, c'est pas de ma faute, hein, si, enfin, je pense que c'est pas de ma faute. D'être stérile,
bien
je
sûr.
Suis pour rien. Enfin, je pense pas y être pour grand chose. Donc, si tu veux, j'ai pas à m'en cacher ou à avoir honte de ça. C'est facile à dire, encore une fois, avec le recul, hein, mais non,
c'est important. Je trouve que c'est cool que tu le dises aujourd'hui avec le recul. Il faut que les gens... Par rapport, j'imagine, le Benoît d'il y a 13 ans, c'est ça?
Ah oui, oui.
Il aurait peut-être adoré écouter ton
histoire. Ah, probablement. Ça, alors, j'espère que ça aidera certaines personnes qui sont dans le même cheminement, dans le questionnement, dans le cheminement. J'espère que ça pourra les aider parce que finalement, ce n'est que ça. Il faut se détacher de toute pression sociale, religieuse, pression de l'environnement, en fait. Faut se détacher de ça. C'est pas évident. Le truc, c'est que moi, j'ai une famille qui est relativement réduite. Donc, si tu veux, j'ai pas eu de pression là-dessus. Et puis, de toute façon, moi, je me suis toujours drivé un peu tout seul. Donc, j'ai pas forcément besoin des autres. J'ai mes frères et sœurs qui m'ont toujours accompagné là-dedans, qui se posent même pas la question, tout ça. Donc, non, vraiment, vraiment, c'est important. Et si tu veux, ce que je disais tout à l'heure, voilà, nous, on a presque choisi. Pas choisi notre enfant, hein, c'est pas ça, mais on a fait un choix, c'est celui-là, parce qu'on avait, on en avait d'autres. Hein. Encore une fois, il y avait l'adoption. Hein. Il y avait l'adoption. Alors, si tu vas à l'étranger, il y a la GPA. Nous, on n'est pas pour ça, hein, mais ça existe. Hein, ça aurait pu être possible. Donc, voilà, il y avait. Mais nous, ils ont été faits comme ça, mais encore une fois, c'est pas important. Mais il fallait le dire. C'est important de le dire, mais une fois que tu l'as dit, ça ne devient plus important. Voilà, c'est ça qu'il faut, à mon avis, faut intégrer. Et ça, je le répète à foison quand on m'interroge là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. Tu vois, je le répète parce qu'il faut l'entendre, il faut le marteler, ça. C'est pas important. C'est de la technique. La technique, elle vient à ton aide aujourd'hui parce que t'as la chance d'être né au 21e siècle ou au 20e siècle. Voilà, là, elle vient t'aider. Utilise la technique, quoi.
Qu'est-ce que t'as envie de dire aux auditeurs, là, qui sont des potentiels donneurs de sperme aujourd'hui et qui, j'imagine, en fait, même peut-être découvrent le truc, parce que moi, à titre perso, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas fait, quoi.
Ouais. Alors, aux donneurs, en fait, ben, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire oublier. Alors, encore une fois, c'est vrai que donner son sperme, c'est pas hyper valorisant. On a l'impression que c'est pas hyper valorisant parce que on attache souvent au sperme quelque chose d'un peu sale.
Okay.
Hein, c'est vrai, hein, c'est sale, c'est rien qu'à l'aspect ou la texture, on peut dire que c'est sale, mais finalement, c'est ni plus ni moins que donner l'espoir à des gens comme moi et de devenir parent, de fonder une famille qui sera pas parfaite, qui sera pas meilleure que les autres, mais de se laisser cette chance-là et de donner naissance à des enfants qui vivent bien, qui vivent normalement avec leurs soucis d'enfant, leur bonheur d'enfant, leur rire d'enfant, et c'est vrai que il faut qu'ils se disent que la seule barrière qu'ils ont, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, la seule barrière qu'ils ont, c'est une barrière, encore une fois, on parle de culture et de social, c'est une barrière culturelle et sociale, c'est tout. Donnez votre sperme parce que vous allez rendre des gens heureux, tout simplement, quoi. Faut vraiment pas hésiter, c'est quelque chose de... Vous aurez pas de remerciements, hein, vous aurez pas de statut, mais comme vous en avez pas quand vous donnez votre sang, mais vous le faites de bon cœur, parce que vous voulez sauver des gens, parce que des gens en ont besoin, hein. Il y a des milliers de litres de sang qui sont donnés chaque jour en France, et ça marche plutôt bien, donc faites-le pour, par fraternité, hein, par compassion, trouvez-vous, si vous voulez, ce que vous voulez comme moteur, mais faut le faire. Et puis bon, bah, entre nous, donner son sperme, parce qu'on va parler de ça, il y a plus dur, hein. Tu vas peut-être même prendre du plaisir en donnant.
Moi, franchement, à titre perso, je me dis, je préfère aller me branler 5 minutes, tu vois, que de me faire piquer et qu'on pompe
clair.
Des 200,
clair.
Quoi, tu vois.
C'est clair. Bon. Donc tu risques, en plus, tu risques presque d'y prendre goût, fais gaffe.
Merci pour ta réponse, vraiment, et pour ton partage. La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est si demain tes deux enfants écoutent ce podcast, dans 10 ans, d'accord,
ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, aujourd'hui?
S'ils écoutent dans 10 ans? C'est une question bien piège. Genre, j'ai jamais écouté un de tes podcasts en entier.
Ça t'apprendra.
Ça m'apprendra, bim. Alors, dans 10 ans, qu'est-ce que j'aimerais leur dire?
Ils auront 21
et 17. Ouais, 21 et 17.
Ils seront grands.
Ouais. Alors, je leur dirais... qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je leur dirais de rester comme ils sont, en espérant qu'ils soient toujours comme ils sont actuellement, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance, d'être dans le partage, de encore une fois, de pas oublier d'où ils viennent, mais de pas en faire toute une montagne. De se dire que ben, la vie c'est aussi ça, mais avant tout la vie c'est des rencontres, la vie c'est des choix, hein, c'est des choix, et il faut qu'ils restent fidèles à eux-mêmes, mais qu'en même temps ils peuvent changer d'avis aussi, hein. Moi j'ai beaucoup évolué, j'ai évolué grâce à eux. Grâce à eux, alors qu'ils n'étaient même pas nés, hein, quelque part, j'ai évolué grâce à eux. Si aujourd'hui je suis capable de dire tout ce que je dis, c'est parce que j'ai vécu ça. Peut-être qu'effectivement, si j'avais eu les enfants de manière plutôt classique, qu'est-ce que tu veux que je te dise, peut-être que ça m'emmerderait, ce genre de sujet, hein. C'est pas impossible, hein. Donc voilà, donc qui restent comme ils sont, mais qui ne s'interdisent pas d'évoluer, qui ne s'interdisent pas, en fait, finalement, d'utiliser tous les moyens qui sont bons, qui sont techniques, toutes les évolutions de l'être humain pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir se construire éventuellement une famille s'ils ont des soucis à ce niveau-là, et tout simplement pour aider aussi les autres. Donc voilà, qu'ils soient dans le partage, qu'ils soient fiers d'être ce qu'ils sont, d'où ils viennent, mais encore une fois, sans en parler tous les jours. C'est pas important, en fait. C'est pas important. Voilà.
Merci, Benoît. Avec en tout cas, s'il y a un plaisir. Truc qui était très important, c'était de m'avoir parlé là pendant une heure et quelques.
Ouais.
C'était vraiment très cool. Un grand merci à toi.
Avec grand plaisir. À bientôt.
C'était chouette. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Vous avez peut-être entendu que désormais, vous pouvez m'envoyer une note vocale pour réagir à mes épisodes de podcast. Voici donc là où les réactions à l'épisode précédent qui m'ont été envoyées grâce au lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode, ou alors tout simplement en faisant une note vocale sur votre téléphone et que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com. Fabflorent, ça s'écrit fabflorent.com.
Merci pour ce formidable épisode de rentrée. Je pense que les couples homoparentaux mettent en lumière l'implication du coparent. En abolissant la frontière du sexe et du genre, cela met sur un pied d'égalité hommes et femmes. Père et mère n'ont plus la même définition et je suis convaincue que les familles homoparentales vont faire évoluer la société, même si bousculer les mentalités prend beaucoup de temps. Vive les coparents. PS, je suis une daronne un peu mec, au sens où mon système hormonal est toujours resté en léthargie. Donc, j'ai une petite fille. Mais pas de poitrine, ni de règles. Je serais ravie d'en parler à bon entendeur. Merci Fabulous Fab. Merci Xia.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.